Alors nous croyons que le Seigneur l'a exaucé. Amen. J'ai donné un titre. Je commence à m'appliquer, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je suis moins perdu que d'habitude. Hein? Pour? Oui, c'est... Oui. Alors le titre, c'est « L'humilité, fondement d'un service fructueux ». C'est un grand classique. Hein? Donc, quand on donne déjà un titre comme cela, la tension descend d'un cran. On en a déjà entendu parler. Mais aujourd'hui, ça va être puissant. Non, c'est tout simple, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais sur le cœur. Et nous allons lire un premier passage, parce que je voudrais m'arrêter sur une réflexion de Jésus, qui passe comme ça dans un de ses discours, et je voudrais revenir là-dessus. Excusez-moi. Voilà. Alors, c'est dans Jean 13. Voilà. Dans une version normale. Hein. Tout à l'heure, on utilisera une autre version. Alors, Jean 13, 31. Lorsque Judas fut sorti, donc ce sont les derniers instants de la vie de Jésus avec ses disciples. Tous sont autour de la table, c'est l'institution de la scène. C'est un thème qui revient un peu régulièrement ces derniers temps. Au cours du repas, Jésus dénonce la trahison de Judas et Jésus conclut de la manière suivante. Au verset 31, donc, « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. » Ce sont des textes un peu mystérieux, hein, pas forcément digestes au premier abord, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus, on va aller plus loin, d'accord ? Mais si vous voulez une explication, priez. Vous risquez de l'avoir. Mes petits-enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre, lui, il est resté dans une réflexion qui n'est pas forcément celle que Jésus poursuit. Et il va dire au Seigneur, « Mais Seigneur, où vas-tu ? » Parce que le Seigneur là, les a un peu défiés, ou je ne sais pas. Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Donc, Pierre dit, tiens, c'est bizarre là ce qu'il nous raconte, le Seigneur. Alors, il revient sur cette remarque. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Je voudrais m'arrêter sur cette phrase. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. » en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Alors, c'est vrai que bien souvent, nous qualifions Pierre de fanfaron. Et je dirais que Il ne faut pas que l'on oublie que Pierre et ses frères et quelques-uns de leurs amis étaient dans l'attente du Messie, et une attente assez précise, parce que quand le Messie se présente à eux, eh bien, Pierre l'a reconnu, et ses frères avec, n'est-ce pas ? Et Pierre est un de ceux qui, ayant reconnu le Messie, il laisse tout tomber pour suivre Jésus. Et donc, ce qui est remarquable, c'est qu'on le voit dans Matthieu 4, verset 17 à 22, on voit ce texte qui nous rappelle cette rencontre de Jésus avec ses disciples au bord du lac. Et là, on lit au verset 22, « Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et le père, leur père, et le suivirent. » Vous voyez ? Donc, Pierre, ce n'est pas un fanfaron de service, hein ? Non ? C'est quelqu'un qui, on le voit dans d'autres textes, hein, on pourrait faire une petite étude à ce sujet, on voit cette attente qui est là dans leur cœur, et quand ils voient le Messie, ils le reconnaissent rapidement, et quand il les appelle, il n'y a aucune forme de résistance dans leur cœur, ils laissent l'entreprise familiale, le patron, leur père, et ils suivent Jésus. Pierre et les autres n'ont plus rien à perdre, hein ? Nous pouvons donc comprendre l'élan de Pierre à vouloir suivre Jésus. Jésus est en train de suivre un développement. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres et tout ça. Non, non, Pierre, lui, il est arrêté par une phrase « Je m'en vais suivre un chemin sur lequel... » vous ne pouvez pas me suivre. Et là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Et je vous le dis à vous aussi maintenant. Alors Pierre, ça l'interpelle. Il dit, écoute Seigneur, moi j'ai tout plaqué pour te suivre, et là tu me dis que je ne peux pas véritablement te suivre, alors que je suis en train de le faire déjà depuis un certain temps. À notre tour, c'est vrai, on peut ressembler à Pierre. Après avoir découvert Jésus et reconnaître le prix qu'il avait payé pour notre pardon, pour notre réhabilitation, pour notre salut et pour être enfin libéré, eh bien, on a véritablement envie de le suivre. Très souvent, on parle du zèle de ceux qui viennent de se convertir. Hein, vous en avez déjà. Ah, il a le feu. Hein. Et puis on rajoute derrière, il vient de se convertir. Hein, vous n'avez jamais remarqué ça ? Hein ? Ouais. On est comme Pierre. Tu lâches tout, tu réalises que le Seigneur t'a arraché vraiment à une mort certaine, et toi tu as envie de le suivre, et tu es prêt à proclamer partout et à n'importe qui, ouais, le Seigneur, c'est celui qui sauve, il m'a délivré. Non ? Normalement, c'est comme ça. Nous sommes prêts à relever n'importe quel défi. Lorsqu'on a vécu une conversion véritable, radicale, parce qu'il y a des conversions de caractère intellectuel assez nuancés, qui ne nous permettent pas de savoir exactement à quel moment précis on est passé de la mort à la vie. On est passé du gris foncé au gris clair. Et il n'y a pas, je dirais, ce feu dans le cœur comme on l'imagine chez ceux qui ont vécu une délivrance quand ils ont été arrachés des ténèbres, et de vivre ce feu. Enfin, c'est comme ça que normalement ça se passe lorsque la conversion est profonde et radicale. Et c'est l'intro de Romains 12. Bien sûr, encore une fois, Romains 12, je vous le resserre encore une fois, mais jusqu'à ce que je parte, ça sera comme ça. Hein. On peut le lire dans Parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante et sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Ainsi, quand on vient de se convertir, le Seigneur nous appelle à être de plus en plus radicaux avec notre passé. Ce qui est ancien, je le laisse volontairement en arrière. C'est très classique, on n'arrête pas de le dire et de le redire. Et je le fais normalement, sans regret, parce que je suis profondément convaincu que si je continue selon le style de mon ancienne vie, je vais aller vers la ruine. Et comme je sais et que j'ai été convaincu que la ruine, c'était ce qu'il y avait devant moi, au moment où Jésus est venu pour me révéler que j'avais réellement besoin d'être sauvé, eh bien, comme je sais que la suite du projet, c'est la catastrophe, eh bien, je vais éviter de reprendre les mêmes éléments pour conduire ma vie comme je la conduisais auparavant. C'est juste une question de bon sens. Seulement, quand le Seigneur nous vide de ce qui était notre passé, il est évident que nous ne pouvons pas continuer trop longtemps à rester vide d'une forme de fonctionnement sans avoir investi assez rapidement le nouveau fonctionnement. D'accord ? Non, ce n'est pas très clair. Bon, alors je vais insister. Je dirais que je ne dois pas laisser d'espace vide dans mon cœur et me laisser remplir de la pensée du Seigneur. C'est pour cette raison que dès que quelqu'un rencontre le Seigneur, on lui conseille le plus rapidement possible à plonger son regard dans la parole de Dieu, à ne plus la lire comme le code de son permis de conduire, voyez ? Il y a ça qu'il faut faire, et il y a surtout ça qu'il faut éviter de faire, sinon tu vas avoir des échanges avec les bleus. Hein ? Et ce n'est pas bon. Non. Quand tu commences à découvrir la parole de Dieu, tu te rends compte qu'il y a là, en suivant par exemple la vie de Jésus, des principes de vie et des principes relationnels avec Dieu qui vont changer, des principes relationnels avec les autres qui vont changer, une manière d'imaginer, de concevoir la vie et tout ce qui est devant toi d'une manière totalement différente des principes de ce monde. Dans ce monde, tu veux paraître, tu veux être quelqu'un, tu veux avoir et tenir le haut du pavé, alors qu'à un moment donné, tu tenais le bas du fossé, hein, comme disait quelqu'un dans les temps anciens. Non, le Seigneur veut te montrer que tu as changé de rue, tu as changé de royaume, tu as changé de manière de concevoir l'avenir et ta manière de penser change. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Pierre et Jésus? Pourquoi Jésus parle ainsi et pourquoi Pierre cherche à en savoir un peu plus? Alors, pour mieux comprendre, on pourrait lire Luc 22, du verset 14 à 34. Alors, on reprend, c'est toujours l'institution de la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres avec lui et il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, c'est pas ça ? Ben là, ce n'est pas parole vivante, c'est le texte normal. C'est pas grave, Thierry. Non, Thierry, il faut l'encourager, il fait ses armes et il a... C'est bon, Thierry, ça marche. Alors, l'heure étant venue, il se mit à table, les apôtres avec lui, et il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui qui ferait cela. Alors, à ce moment-là, il est dit dans ce texte qu'il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi jusque... » qui avait percé avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans le royaume, dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Le contexte de la conversation entre Jésus et Pierre est plus explicite. Les disciples ont tout abandonné pour suivre le Seigneur Jésus. Ils vivent à ce moment vraiment un moment très intense, mais il y a une chose qui se passe dans leur être intérieur, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'au moment où Jésus est en train d'instituer la scène, ce que nous appelons la scène, Jésus, lui, il est en train de célébrer une Pâque dont l'agneau sera lui-même. Et il parle, en même temps qu'il institue la scène, de ses souffrances à venir, parce qu'il se rend compte que toute la dimension et la force de ce moment-là, c'est qu'il est en train de mettre un point final à cet engagement qu'il a pris à notre égard. C'est à ce moment-là que les disciples poursuivent, Jésus n'arrête pas de nous répéter qu'il va s'en aller, qu'il va être tué, etc. Donc il faut qu'on assure la pérennité de ce qu'il a commencé de faire. Donc qui va le remplacer? Qui est le plus grand? Et Pierre, qui lui, comme les autres, ont tout abandonné pour le suivre, sont pétris de cette pensée, nous voulons aller jusqu'au bout, mais avec les honneurs du rang qui devra être le nôtre parce que nous avons tout lâché pour le suivre. Et Jésus, il ne réalise pas que Jésus, lui, pour venir jusqu'à nous, il a quitté la gloire du ciel et la sainteté et la pureté dans laquelle il était pour venir se jeter dans la médiocrité de notre monde et nous arracher des ténèbres, pour mourir. Et il est en train de dire, voilà, ceci est mon sens, ceci est mon corps, et c'est ce qui va se passer, mais personne ne comprend rien à ce qui se passe. Et quand il dit à Pierre, écoute, je suis en train de prendre un chemin et tu ne peux pas me suivre sur ce chemin, c'est bien véritablement qu'il le dit, parce que Pierre n'est pas en mesure. Jésus est en train de lui dire, lorsque tu seras converti, alors à ce moment-là, tu pourras te mêler d'encourager les frères et de les fortifier dans la foi. Pour le moment, tu as tout laissé, mais tu n'es pas véritablement converti. Et moi, je crois que bien souvent dans notre vie, ces deux étapes-là sont à vivre. Nous sommes comme si le Seigneur nous disait, où tu regardes la vie de l'Église et tu dis, tiens, il y a des choses à faire, je vais m'engager ici ou je vais faire ça. Mais le Seigneur ne te demande pas simplement de faire des choses grandiloquentes. Le Seigneur te demande de réellement te convertir. Quand nous lisons Romains 12, il dit, je vous encourage à offrir vos corps comme un sacrifice du vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, afin que vous compreniez quelle est la pensée de Dieu à votre égard, ce qui est juste, convenable, parfait. Nous, on ne réalise pas ça. Nous, un jour, on était dans un malaise quelconque, le Seigneur est venu, il nous a délivrés, ça y est, on est converti. Il dit non, tu ne t'es pas converti. Tu te seras converti quand réellement le Seigneur t'appelle et il te dit, tu vois, je t'ai fait la démonstration que je te sauvais, maintenant que tu es beau et propre, comme je le dis souvent, maintenant ta vie a du prix, j'attends que tu l'offres. C'est à toi maintenant, moi j'ai fait le premier pas, à toi de faire le deuxième. Pierre, il était convaincu que Jésus était le Messie, comme beaucoup d'entre nous, si nous sommes là, nous sommes convaincus que Jésus est vraiment quelqu'un qui peut faire quelque chose dans nos vies. Mais à un moment donné de notre vie, il y a un défi immense qui se présente, c'est celui où notre vie réellement bascule. Nous ne sommes pas simplement au bénéfice de la grâce, nous allons rentrer dans la construction de la grâce pour les autres également. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je dis, mais pétard, Seigneur, j'ai tout largué, mon père, ma mère, mes frères, non, ils sont avec moi. Mais je te suis. Je te suis, Seigneur. Est-ce que tu te rends compte que ça fait un moment qu'on marche avec toi? Je dis, oui, pour le moment, tu suis, tu écoutes, il y a des choses qui te font envie. D'un seul coup, dans la conversation, tu as discerné comme un défi. Tiens, tu viens de dire qu'on ne va pas pouvoir te suivre sur un chemin que tu es en train d'emprunter, mais le Seigneur est en train de dire à Pierre, fais attention, pour le moment tu ne peux pas aller au-delà. Fais attention Pierre. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il faut marquer le pas? Non, c'est de bien comprendre ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Et Jésus, à ce moment-là, il s'abaisse. Il dit, vous avez remarqué comment ça fonctionne dans ce monde ? Nos ministres, ça veut dire quoi ? Un ministère ? C'est un service ? Qui c'est qui les sert ? Eux ou nous ? J'ai entendu dire que certains se servaient, hein, qui avaient confondu les poches de l'État et les leurs. Bon, cette notion de service, d'être un chef d'État, de représenter la nation, de chercher le bien commun, d'être sensible à la souffrance des plus petits et tout ça, c'est rare quand ça se voit véritablement, n'est-ce pas ? Mais le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il est venu dans toute sa gloire, mais il est venu jusqu'à s'abaisser pour nous. Et il dit, mais pourtant, je reconnais que vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves, avec moi dans mes épreuves. Il reconnaît tout ce qu'ils ont vécu. Mais il y a une étape qui n'a pas été franchie, et Pierre va la franchir difficilement. Jésus est en train d'avertir Pierre, parce qu'il sait ce qu'il va lui dire. Il dit, attention Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et le Seigneur le fait pour chacun de nous en particulier. Il se tient à la droite du Père et il intercède pour chacun de nous. Quand Pierre suit le Seigneur, eh bien, on le voit rentrer dans la cour, là où personne ne l'avait appelé. Qu'est-ce qu'il fait dans la cour de la prison ? Visiblement, Jean était avec lui, puisque c'est lui qui rapporte l'histoire, et il le précise. Environ une heure plus tard, dans Luc chapitre 22, verset 59, il dira... Environ une heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. « Pas de doute, cet homme-là était avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. » « Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, » s'écria Pierre. Et au même instant, pendant qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter. Le Seigneur se retourna et son regard croisa celui de Pierre. Alors Pierre se rappela ce que le Seigneur l'avait prévenu. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras déjà trois fois renié. Il se glissa dehors et il pleura amèrement. À cet endroit, nous voyons que Pierre a reçu une révélation précise de son propre cœur. Et bien souvent, je me pose la question, pourquoi faut-il attendre des moments d'épreuve qui nous mettent et qui nous amènent au bout de nos capacités, de nos possibilités pour dire, mais Seigneur, moi je suis prêt à faire tout et n'importe quoi pour toi, et on se croit bien souvent suffisant. Pour être victorieux et vivre dans la mentalité du royaume, je nous invite à observer l'arrivée du Sauveur du monde dans sa mangeoire. Le roi des cieux qui a participé à la création de toutes choses avec son Père et l'Esprit Saint, qui descend jusqu'à nous, non pas sur un char glorieux environné de flammes et... en disant « c'est moi le sauveur ». Non, il vient et on l'installe dans une mangeoire, dans une étable. Vous vous souvenez du ciel qui s'ouvre, des anges dans la joie. Le Messie est arrivé parmi les hommes. Vous vous souvenez de la visite des bergers, de ce que les anges leur racontaient? Allez le voir, il vient d'arriver, il est dans une étable, dans une crèche. C'est ainsi que le Fils de Dieu est apparu aux hommes et qu'il est mort de la même manière, sans honneur, rejeté de tous. Alors, je nous donne un avertissement. Parce que je crois que cette pensée-là traverse peu le christianisme contemporain, qui est plus empreint d'honneur, de gloire, de paillettes et de vociférations en tout genre, pour mettre en évidence la gloire du Dieu vivant qui se sert de ses enfants en tout genre, de toute race, et qui les élève pour qu'ils soient efficaces et porteurs de la bonne nouvelle en temps et hors de temps. Moi, je vous le dis sincèrement, tout homme qui viendrait à nous dans un autre esprit que celui de la crèche est un menteur et un imposteur. Nous devons chacun, pour notre part, agir dans cet esprit-là. Et quand le Seigneur nous parle et qu'il nous dit « À cet endroit, je ne t'ai pas appelé », c'est qu'il a prévu un temps particulier où notre cœur doit approfondir sa relation avec son Seigneur. Et si tu es prêt à rentrer dans cette dimension, ben fais-le parce qu'il va t'accompagner. Nicole et moi, nous appelons cela l'esprit de la crèche. Et je me rends compte, qu'au milieu de tout ce que nous attendons, entendons sur le net, voyons dans tous les meetings et toutes les rencontres qui sont programmées de droite et de gauche, l'esprit de la crèche, il est complètement absent. Complètement. Cette vision du Seigneur qui vient jusqu'à nous de cette manière-là est souverainement méprisée. Je vous dis, nous sommes en danger. Mais moi, je vous exhorte, écoutez, regardez, allez à droite, à gauche, faites ce que vous voulez, certainement. Mais tout ce qui ne peut pas s'identifier à l'esprit de la crèche, rejetez-le avec force et radicalement. Il n'y a rien de bon. Le Seigneur est venu au milieu de nous de cette manière-là et il a servi de cette manière-là. Il s'est abaissé jusqu'au dernier jour pour laver les pieds des disciples. En aucune manière, il ne s'est baladé en jet privé. C'est pas vrai. Et quand vous voyez certaines vidéos sur YouTube, vous voyez les 10 pasteurs les plus riches du monde. Allez faire un tour, vous comprendrez de quoi je parle. Quand vous verrez, par exemple, une autre vidéo qui nous parle des jets les plus luxueux de la planète, qu'on en trouve, qui appartiennent à des pasteurs, et qui se dédouanent parce que, de temps à autre, ils les prêtent pour la mission, pour que certains évangélistes puissent arriver sur le champ missionnaire dans des meilleures conditions. Je dis, on se moque de Dieu. On se moque de Dieu. Et nous sommes vraiment en danger. Si nous voulons être de ceux qui avons un témoignage qui est puissant, nous devons nous identifier le plus possible au Seigneur Jésus. Nous pouvons être attirés comme Pierre par rapport à des choses qui pourraient nous tenter. J'ai dit, enfin, comment ça se fait? Le Seigneur dit qu'on ne va pas pouvoir le suivre. Mais pourquoi il nous a appelés à marcher avec lui? Si. Je vous dis, nous avons besoin de nous convertir profondément. Profondément. Que notre mentalité, vraiment, elle change. Et que nous nous souvenions toujours de ce texte que nous répétons inlassablement, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Le fruit d'une conversion profonde est la capacité que nous recevons de Dieu pour affermir nos frères. Et toi, quand tu seras converti, mets-toi derrière un micro et braille tout ce que tu peux. Non. Ce que le Seigneur te demande, c'est que quand tu seras réellement converti, tu vas avoir un fardeau réel au fond de ton cœur pour que tous les plus faibles autour de toi soient affermis et construits par ton témoignage. Tu ne pourras pas résister à cet appel. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Et quand je dis nous avons besoin de vivre une conversion profonde, je dirais même que si nous voulons avoir un petit point de repère, à quel endroit dans ta vie un frère a-t-il été encouragé par toi ? Quel moment ? À quel moment dans ta vie un frère à côté de toi a-t-il été affermi dans sa foi ? Ça, c'est... Vous voyez, souvent je vous le dis, interprétez les versets à contrario et ça vous donne une idée exacte de l'endroit où nous sommes dans notre marche avec le Seigneur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ok ? Comment veux-tu savoir si tu es passé réellement de la mort à la vie ? Eh bien, tu regardes combien de frères autour de toi sont au bénéfice de ta compassion et de ton amour. Et ça te donne une idée réelle de l'endroit où tu te trouves. D'accord ? Et ici, c'est la même chose. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Si tu veux savoir si tu es réellement converti aujourd'hui, parce que je pense que tout comme Pierre, la conversion, c'est un processus, ce n'est pas figé un jour et une heure. Il y a un jour et une heure pour le commencement, mais ta conversion d'aujourd'hui est-elle accomplie ? Est-ce qu'à côté de toi, il y a des frères qui sont affermis dans leur marche par ton témoignage et ton comportement ? Eh bien, ça nous donne quelques idées sur la réalité de là où nous en sommes. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il ne veut pas nous mettre le nez sous l'eau et finir de nous noyer, mais il est en train de nous dire, il y a des choses qu'aujourd'hui tu peux vivre et il y en a d'autres que tu ne peux pas encore vivre parce que ta conversion n'est pas accomplie. Moi, je veux que tu changes carrément d'orientation, de manière de penser, de mentalité, que tu ne regardes plus les autres avec dédain ou, je dirais, pas forcément avec dédain, mais indifférence. C'est lui, c'est moi. Point. Ça s'arrête là. Mais notre Seigneur veut nous donner de la compassion, de l'amour, de l'attention. Il ne peut pas supporter que des gens se perdent. Et il ne veut pas que dans notre cœur, nous acceptions que des gens passent leur vie ici-bas, poussent la porte et partent vers une inconnue qui est difficile à imaginer. Alors je conclue, j'arrête là. Voilà, j'en ai assez dit. On va lire un texte dans Paroles vivantes. Ben, c'est la suite de Romains 12. On va reprendre au verset 2. Où il rappelle des choses, là ce texte, c'est un texte de base. Hein. Romains 12, il doit être affiché dans chacune de nos maisons. Hein. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes de jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît est ce qui vous conduit à une réelle maturité. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. Et ça, on rejoint ce que nous disions. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique, pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ses paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. À un autre, le don d'exercer des activités pratiques. S'il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance de biens matériels, qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire les frères. Un autre, il sait exhorter, consoler, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort, que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial, que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. L'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité, haïssez le mal, ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien, attachez-vous-y fortement, comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde, estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Considérez-vous comme solidaire des chrétiens dans le besoin. Soutenez-les par vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos devoirs d'hôte avec empressement et bonne grâce. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Donnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous ne l'êtes, et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. C'est bien raconté, n'est-ce pas? On se reconnaît mieux, là. Ça aide. Comprenez qu'il y a là une force et une capacité à vraiment triompher dans tout ce que le Seigneur ouvre devant nous. Il y a une zone qui nous est réservée. Il y a peut-être des choses meilleures que nous pourrions accomplir. Pas forcément meilleures, mais différentes. Ne cherchons pas à nous observer les uns les autres pour envier ce que l'un ou l'autre fait, mais contentons-nous de vivre ce que le Seigneur nous demande de vivre aujourd'hui, dans ce que nous sommes, dans ce que nous connaissons de lui. Le Seigneur se charge du reste et il te fera rentrer dans son champ. Oui, Nicole ? Tu es bien là ? Tu n'arrivais plus à monter ?
Je manque de force. Non, un témoignage personnel. Il y a un point qui m'a marqué, c'était quand Pierre, comme tu disais, enfin Pierre, il pensait toujours qu'il savait et il disait même, si tous t'abandonnent, moi, je t'abandonnerai pas. Et en fait, quand il a renié Jésus, les versets qui ont été remis, ce qui s'est passé, comme Claude le soulignait, il a eu une révélation de son propre cœur. Il se croyait toujours beaucoup plus haut qu'il n'était. Et pour ma part, ça m'est revenu un moment dans ma vie où j'allais bien, je vivais vraiment de bonnes choses avec Dieu. La Bible me parlait beaucoup, j'étais très contente dans le service. Et je me croyais un peu sur les hauteurs. Et puis voilà, il y a des difficultés qui sont arrivées. Et est arrivé un moment où j'arrivais pas du tout à assumer. Alors des montagnes, je suis descendue dans la vallée. Et là, c'était pas pareil. Dieu m'a révélé où j'en étais vraiment. La différence entre ce que je croyais être et ce que j'étais réellement. Et Dieu m'a montré que c'était par amour, pour que j'apprenne à le connaître, à être dépendante de lui, à m'appuyer sur sa force et non pas sur moi-même. Je pense après que ce n'est pas une chose qu'on vit une seule fois. Je pense que de temps en temps, ce sont des choses qui reviennent. Mais en tout cas, la vallée, ça nous change. Parce qu'on voit notre fragilité, mais aussi la force de Dieu. Et j'avais lu une phrase que je redis de temps en temps qui m'avait marquée. Parfois, le Seigneur nous évite la vallée, mais parfois aussi, et c'est là le meilleur, il choisit de la traverser avec nous. Et la vallée nous change. Et il y a un texte dans Ézéchiel 3 qui dit « Dans la vallée, je te parlerai ». Et enfin, j'avais pas trop envie de parler, mais je me dis, s'il y a peut-être certains d'entre nous, on est en train d'être dans la vallée, et c'est un petit peu comme les vagues qui sont arrivées sur Job, on a l'impression qu'il y a des choses qui vont pas, il y en a d'autres, c'est vraiment difficile, mais dans ce temps, Dieu parle profondément, il relève, il nous change, et il y a de l'espérance.
Merci. Je voudrais juste faire une réflexion au sujet de Pierre, parce que Jésus n'a pas laissé Pierre dans cet état-là, vous le savez très bien. Il a retrouvé Pierre au bord du lac, et quand il s'adresse à Pierre, il lui dit « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» hein ? Parce que l'échelle de valeur de Pierre, c'était la comparaison avec les autres. Alors le Seigneur va le chercher dans son territoire et lui dire, bon, mais maintenant, Pierre, est-ce que tu es capable de m'aimer plus que les autres ? Alors Pierre, il dit, oui, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Et Jésus va insister. Et à chaque fois, Jésus renouvelle à l'égard de Pierre sa confiance. Il dit, paie mes brebis, occupe-toi du troupeau, encourage les frères. Et quand il lui parle comme ça, Pierre est installé dans ce qu'il souhaitait vouloir être au moment où Jésus lui dit, là tu ne peux pas me suivre. Mais quand tu seras converti, affermis mes frères. Et à la suite de ce reniement, Pierre, qui a vu exactement là où il en était, reçoit de la part du Seigneur Jésus un encouragement à rentrer dans le chemin qu'il avait envisagé. Là, tu peux me suivre. Et Jésus va même aller plus loin. Il va lui dire, un jour viendra où quelqu'un te mènera là où tu n'as pas envie d'aller. Il te lira et il indiquait, dit le texte, de quelle manière Pierre allait mourir. La tradition dit qu'il a été crucifié la tête en bas parce qu'il ne voulait pas, paraît-il, être crucifié comme Jésus. Il est allé au bout de ce qu'il croyait, mais autant marqué par Dieu et pas le sien. À ce moment-là, quand le Seigneur lui dit « Paie mes brebis, occupe-toi du troupeau », eh bien, c'est que il était capable de le faire et il l'a fait. D'accord ? Alors, ce n'est pas que le Seigneur nous rejette, mais il nous avertit, tu as une capacité aujourd'hui à faire certaines choses et d'autres que tu n'as pas. Donc, laisse-toi conduire, laisse-toi façonner et tu rentreras dans ce que je te montre en son temps. Seigneur, nous voulons vraiment nous incliner devant toi. Et dans ces temps de vacances, Seigneur, où nous sommes un peu plus cool, nous voulons vraiment renouveler notre relation avec toi, être plus attentif, peut-être plus pointillé sur certains passages de notre vie où nous avons été désinvoltes ou approximatifs. Seigneur, approfondis nos cœurs et tiens-nous véritablement dans ta main dans tout ce cheminement-là. Nous ne voulons pas aller jusqu'au reniement, mais nous voulons, Seigneur, que tu nous tiennes dans ta main afin qu'on ne prenne pas des risques inutiles. Merci, Seigneur, de bénir ton Église et tous les amis que tu nous as donnés pour cette journée. Encourage-nous, fortifie-nous, Seigneur. Merci. Amen.